Maurice Renard, le cambrioleur fantôme. Les inspecteurs l'avaient surnommé l'anguille, dit le commissaire divisionnaire Jérôme. Certains l'appelaient aussi le fantôme. Son nom était Stoff. Vraisemblablement, je n'ai jamais pu m'en assurer, car nous ne l'avons jamais pris. C'était un cambrioleur d'une adresse incroyable. Chacun de ses coups témoignait d'une telle virtuosité que nous ne parvenions pas toujours à comprendre comment il avait procédé. Cela tenait parfois de la magie. Je me rendais bien compte que, parmi mes hommes, il s'en trouvait plus d'un pour penser, sans trop le dire, que Stoff n'était pas un être comme les autres et qu'il disposait de moyens mystérieux pour commettre ses vols et nous échapper. Je dis mystérieux, je ne dis pas surnaturel. La croyance sourde et inavouée qui flottait dans l'esprit de mes subordonnés était que le Lascar n'avait pas son pareil pour utiliser les ressources de la science. Il avait dû faire des études fort poussées, et peut-être même avait-il inventé lui-même des choses étonnantes, des procédés surprenants qui dépassaient la toute explication pure et simple de la science à la répréhensible de l'effraction et de la soustraction. Une fois, une seule fois, je crus le saisir. Je trouvais dans mon courrier une de ces lettres anonymes laborieusement composées en caractères d'imprimerie, découpées dans des journaux. Cette lettre était ainsi libellée. Si vous promettez de me demander aucune explication, j'irai demain matin, 10 heures, vous fournir un renseignement précieux. Faites connaître à corps en marquant d'une croix à la craie le poste téléphonique police, avenue de l'Opéra. Je donnai immédiatement des ordres pour que ce signal fût fait. Et le lendemain, à l'heure dite, on introduisit dans mon cabinet un petit homme chafouin, vêtu comme un ouvrier. Ses yeux vifs fuyaient les miens. Il semblait inquiet. Je le rassurai sur le champ et l'invitai à parler sans crainte. Alors il me dit, d'une traite, en restant dans son fauteuil, au fond, et une main fébrile posée sur mon bureau, bien, je viens pour la chose de la croix marquée à la craie. C'est rapport à Stoff. Je peux vous dire où qu'il reste et comment qu'il vous soit facilement, sûrement, aujourd'hui à partir de 4 heures de le rencontrer. Vous pouvez y aller et jusqu'à la nuit. C'est rue Saint-Norbert, au 32, troisième étage à gauche. Il n'y a qu'une porte. Autant dire que ce logement, c'est une impasse, même qu'à moi, mon avis, j'y comprendrai rien, tellement que c'est imprudent. Enfin, c'est comme ça. La porte du palier ouvre directement dans la première pièce. En face, il y a la porte qui donne dans la seconde pièce, qui est donc le laboratoire. Et c'est tout. On voudrait vous méfier que d'une fenêtre par où Stoff pourrait peut-être se barrer. C'est celle qui donne sur la cour. Et puis, dis, trois étages. Quant au laboratoire, la fenêtre est condamnée, bouchée, rapport aux expériences qui demandent de l'obscurité. Je vous dis un cul-de-sac, voilà. Et maintenant, au plaisir, monsieur le commissaire. Je l'avais laissé parler sans l'interrompre et je le laissais partir sans rien lui demander. Quelle raison avait-il de trahir le voleur fantôme? Évidemment, quelque histoire de femme ou quelque dispute à propos d'un partage. Et la rue Saint-Norbert est plutôt une ruelle dans le calme et silencieux quartier du Préau-Clair. Vers 5 heures, j'emmenai avec moi deux inspecteurs et je me rendis à l'endroit invoqué. C'était une vieille maison tranquille de fort bonne apparence. L'un de mes compagnons fut chargé de surveiller la cour et l'autre monta derrière moi l'escalier. C'était un nommé Georges. Je le sentais légèrement nerveux. Pendant le trajet, il n'avait parlé que de Stoff et de l'étrange réputation de l'insaisissable cambrioleur. Certes, Georges avait pris soin de plaisanter constamment, de ne pas quitter le ton gouailleur et sceptique qui convenait à la circonstance, mais enfin, c'était manifeste. Le bon garçon ne jouissait pas de sa sérénité habituelle. Il avait certainement l'impression de courir, cette fois-ci, une aventure insolite. L'adversaire que nous nous promettions de arrêter lui semblait à coup sûr un personnage exceptionnel. Et il avait eu beau ricaner en supputant tous les tours qu'un fantôme est capable de jouer à des policiers. Son malaise confus ne m'avait pas échappé. Il était pourtant brave au superlatif. Mais il y a des natures qui ne résistent pas à l'influence du mystère. Et moi-même, pour tout dire, étais-je tout à fait comme d'habitude? Non. Mais je pensais beaucoup plus à Stoff l'anguille qu'à Stoff le fantôme. Au troisième étage, la porte de gauche à un seul battant était munie de sa clé. Oh, je n'hésitais pas un instant et je tournai cette clé. La porte s'ouvrit de bonne grâce. J'entrai, Georges étant derrière moi sur mes talons, et il faisait encore grand jour. Une pièce de dimension moyenne m'apparut, avec un lit, une table ronde, des meubles modestes. Le tout propre et soigné. Personne. J'appelais à voix haute assez gentiment. Monsieur Staff, à ce moment, je ne doutais pas que Staff ne se trouvât dans la pièce du fond, celle qui m'avait été désignée sous le nom de laboratoire et dont la porte se trouvait en face de moi, comme l'indicateur me l'avait annoncé. Cette porte était entr'ouverte. Je la voyais bâillée de l'autre côté du seuil, car elle pivotait dans le laboratoire. Et par la fenêtre étroite, je ne distinguais que l'obscurité la plus épaisse, tenant à la main mon revolver et ne quittant pas des yeux cette fente ténébreuse, j'avançais et je répétais: Monsieur Stoff! Alors, la porte se ferma paisiblement comme une réponse à mon appel. Je m'arrêtai. L'espace de 3 secondes, je délibérais, sans trop savoir pourquoi cette porte fermée m'avait fait faire halte. Votre lampe, demandai-je à Georges, éclairez-moi. Il s'avança à ma hauteur, levant sa lampe électrique de celle sorte qu'elle éclaira le laboratoire dès que la porte s'ouvrirait. Je tournai le bouton de cuivre et je poussai brusquement le ventail que rien ne maintenait, ni verrou, ni force humaine. La lumière de la lampe nous fit voir une table et des rayons chargés d'appareils de toutes sortes. C'était bien un laboratoire qui s'offrait à nos regards. Attention, murmura Georges. Stoff, sortez, commandai-je. Vous êtes pris. Vous n'avez aucune chance de fuir. Les issues sont gardées. Allons, sortez. Nous vous tiendrons compte de votre docilité. Rien ne me répondit. L'instant était de ceux dont on se souvient, de ceux qu'il faut donner, faire de sa personne, advienne que pourra. Je pénétrai dans ce réduit qui ressemblait à l'antre d'un alchimiste. Georges rapidement promenait le faisceau de sa lampe en tous sens, dans tous les coins, sous les tables, derrière les amoncellements de machines et de récipients. Solitude, silence, pas plus de stuff que sur ma main. Georges ne cessait d'exécuter de brusques volte-face, comme s'il avait redouté d'être assailli par derrière. Et j'avoue que, pour ma part, j'étais l'objet d'une extraordinaire perplexité. Quelqu'un avait, sous mes yeux, fermé une porte, et pourtant, il n'y avait personne derrière cette porte, dans une chambre hermétiquement close. La fenêtre, en effet, je m'en assurais, était recouverte de matelassures cloués un châssis qui se trouvait là lui-même vissé à la croisée, et tout cela revêtu de poussière et de toile d'araignée. Chef, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-il là tout de même? Ma foi, j'étais sur le point de me le demander. J'examinais la porte pour vérifier si par hasard un dispositif automatique n'y était pas adapté. Vaine recherche. Cet oui était, lui, le plus naturel du monde. Alors, qu'est-ce qui ne l'était pas naturel? Nous repassâmes dans la première pièce. Je ne pense pas, dis-je, que Stoff fût caché dans cette chambre et qu'il se pût filer par l'escalier pendant que nous fouillions son laboratoire. Quand avez-vous fermé la porte du palier, Georges? Oh, mais tout de suite, chef, pendant que vous avanciez vers le laboratoire. J'avais d'ailleurs, qu'à notre entrée, Stolf ne se soit caché, j'avais bien peur, entre le mur et la porte rabattue. Alors, j'ai fait vite, je vous en réponds, et j'ai fermé à clé, puis j'ai mis la clé dans ma poche. Vous avez fait vite, dis-je, pris d'une idée. Dans ce cas, j'entrevois une solution. Voyons, reconstituons, mon cher, reconstituons. Je rouvris en grand la porte palière. Je replaçai, presque close, celle du laboratoire. Puis, je refermai très rapidement la première. Et j'eus la satisfaction de voir que par l'effet de l'aspiration d'air ainsi provoqué, la porte du laboratoire se ferma toute seule, exactement comme elle s'était fermée tout à l'heure. Il n'y avait plus rien de fantastique. Mais Stoff, plus malin que nous, n'avait pas attendu notre visite. Nous en aurions bien ri en d'autres temps. Mais Stoff, plus malin que nous, n'avait pas attendu notre visite. Nous en demeurions trop déçus pour rire de quoi que ce fût, même d'une illusion aussi simple et cependant aussi parfaite.